L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Amen. Mais comme je vous dis, ce matin, j'étais à Montréal. Le fait de faire une réunion en après-midi, ça me permet d'aller ailleurs aussi quand j'ai des invitations. Puis là, ça s'est adonné que c'était bon pour eux parce que Alan et Martine Wilkie étaient à Rouyn-Noranda aujourd'hui. Ça fait que c'est une chose de dernière minute qu'ils m'ont demandé d'y aller. Puis ça m'a fait plaisir parce que j'avais ce temps-là. Et puis ce matin, j'ai parlé comment Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous, mais en même temps, même si Dieu a une destinée, l'ennemi a une destinée pour nous. Et puis, il faut savoir discerner ça. Vous vous en rappelez, la semaine passée, j'ai parlé comment on peut devenir un chrétien non comestible. Est-ce que vous en rappelez de ça? Être un chrétien non comestible, dans le sens être vigilant, puis voir quand c'est l'œuvre de l'ennemi dans nos vies, puis savoir quand l'arrêter et tout ça. Et puis, cette semaine, dans la prière, moi, ce que je ressentais dans mon esprit, et pas juste dans la prière, avec tellement de phénomènes, toutes sortes d'affaires qui s'est passées cette semaine, que j'avais sur mon cœur à prêcher cet après-midi, c'était sur le Dieu de toute consolation, parce que c'est lui qu'on sert. Et puis, j'aimerais ça qu'on prie maintenant pour la famille Gilbert. Marie-France est ici et Ronald. Et puis, Marie-France a perdu son frère cette semaine. Et puis, on veut prier pour eux, que la main de Dieu vienne vraiment sur eux. On était dans les funérailles hier. Et puis, je crois que c'est important de continuer à prier. On a prié là, mais aussi continuer à prier même dans la famille de Dieu pour cette famille éprouvée. Est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Prier pour eux encore? Seigneur Dieu, on sait que tu es un bon Dieu et que tu as compassion pour tes enfants. Et Seigneur Dieu, on décrète sur la famille Gilbert ta grâce, Seigneur Dieu. Que tu puisses les engourdir dans ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Merci parce que tu as une provision de grâce pour eux. Et merci qu'on peut entourer Marie-France et Ronald et les enfants de ton amour, Seigneur. Et on te remercie parce que ton Saint-Esprit est avec eux également pour les aider à marcher à travers cette épreuve. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans leur vie, pour ta provision, ton amour pour eux. On continue à prier pour eux, Seigneur. On t'élève, Seigneur, devant ton trône ce soir. Au nom de Jésus, merci Seigneur Dieu pour ce que tu fais. Amen. Alors c'est un message ce soir qui s'adresse à tous ceux qui ont été attristés peut-être cette semaine, ou peu importe, on a tous été attristés à un certain moment dans notre vie. Et puis moi, ce que j'avais à cœur, c'est vraiment vous partager le message, le Dieu de toute consolation. Comment Dieu, c'est un bon Dieu, il sait consoler ses enfants. Vous savez, quand on prêche un message comme je prêche, un message de foi, des fois, les gens vont entendre ce message-là et faire quelque chose avec. Et puis, je vais vous inviter à tourner dans Romains, chapitre 10, et le verset 8. On va juste commencer avec quelques versets, établir une fondation, puis après, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe des fois quand on entend ce message-là. Romains 10, verset 8, ça dit, « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, ce sera la parole de la foi que nous prêchons. » Donc, nous prêchons un message de foi, un message de victoire. Mais qu'est-ce qui se passe des fois quand les gens entendent ce message-là? C'est qu'ils vont prendre le message et ensuite vont marcher sans compassion quand les gens vivent quelque chose en dehors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme une raison de se réjouir. Quand une personne est éprouvée, vit une difficulté, des fois cette personne-là, dans la victoire, se tourne vers la personne dans l'épreuve et ne sait pas comment être ému de la compassion de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut faire ici à l'Église? On veut, oui, recevoir toute la provision de Dieu, savoir comment marcher dans la victoire, mais en même temps, savoir comment aimer les gens aussi. C'est tellement important. Puis moi, je crois que c'est une des raisons pourquoi on a eu des difficultés des fois en prêchant la foi. Parce que, par exemple, on prêche sur la guérison, on croit que c'est toujours la volonté de Dieu. Mais en même temps, quelqu'un qui n'est pas guéri, qu'est-ce qui se passe des fois? C'est qu'on va, certaines personnes vont juger une personne qui n'a pas été guérie. Et on retrouve dans la parole de Dieu que Jésus était toujours ému de compassion. Et puis Dieu a dit dans sa parole, Jean 3, 17, ça dit, Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Alors, ce n'est pas notre job de juger les croyants. Notre job, c'est d'aimer les croyants. Dans la parole de Dieu, ça dit, priez pour les malades et on va les voir guérir. On prie pour eux avec foi, on s'attend à avoir une guérison. Mais le restant, ça appartient à Dieu. Nous, c'était simplement d'aimer les gens. Amen. Et puis moi, je pense que si on peut mélanger la foi avec la compassion de Dieu, on est gagnant. Amen. C'est ça la formule. C'est savoir laisser l'Esprit de Dieu aimer à travers nous sans jamais juger les gens. Et si, admettons, vous connaissez quelqu'un qui est malade, qui ne connaît pas la volonté de Dieu, bien, c'est à nous de partager la volonté de Dieu avec cette personne-là, leur partager la parole de Dieu avec amour pour les aider à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Puis par la suite, on peut voir des victoires. Mais c'est toute une question d'attitude du cœur, n'est-ce pas? Une question d'attitude, comment on présente les choses aux gens. Alors, on a lu ce texte-là, on prêche un message de foi, mais aussi en même temps, il faut connaître qu'on doit marcher équilibré dans notre foi. C'est une chose de dire on croit dans le Dieu victorieux, c'est une autre chose aussi de connaître des temps où on peut vivre des épreuves et où on a besoin d'aller se ressourcer. Et en fait, on a toujours besoin d'être ressourcé dans la présence de Dieu. Il y a un autre verset que j'avais à cœur de lire, c'est dans Psaume 46 et le verset 2 à 4. Donc, le Psaume 46 et le verset 2 à 4. Il est écrit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Verset 3 se dit « C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. » Vous savez, on entend toutes sortes de choses, on parle de la crise économique, tout ça. Mais si notre foi est vraiment ancrée en Jésus-Christ, on sait que la grâce de Dieu ne va jamais faillir. Peu importe l'épreuve, Dieu est vraiment un refuge pour nous. Et si on lit dans Psaume 91, vous savez, ça c'est un texte que j'aime beaucoup, là, le Psaume 91, on va lire ensemble. Ça, c'est une promesse de la provision de Dieu. Ce que Dieu a en réserve pour nous, les enfants de Dieu, le Psaume 91. Si ça dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Amen. Donc, Dieu est digne de confiance. Dieu est notre refuge. Puis quand on vient se réfugier à l'ombre de ses ailes, on est vraiment protégé, on est vraiment béni et puis on ressent le secours de Dieu. Et je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà perdu quelqu'un, peut-être perdu un emploi, peut-être perdu des amis, vous avez vécu des pertes dans vos vies. Est-ce qu'il y en a parmi vous, peut-être, vous avez vécu quelque chose de douloureux dans votre vie? Bien, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est passer un petit peu de temps dans la parole de Dieu, puis voir comment Jésus était, lui, dans des situations comme ça. Dans Jean 11, versets 32 à 34, ici, on voit Marie qui venait de perdre son frère Lazare. Et puis ici, là, est bouleversée. Au verset 32, Marie parle à Jésus, elle dit, « Marie parvient à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré? » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondra-t-il, tu verras. » Verset 35, Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il l'aimait. Voyez, il y a des gens qui disent des fois, bien, si on a la vraie foi, bien, on ne va jamais pleurer. Ou on n'aura pas d'émotion, ou on ne vivra pas certaines choses. Mais vous voyez ici, Jésus, le Fils de Dieu, a été ému à cause de la perte de son cousin. C'est quelque chose, verset 35. En fait, quand j'enseignais à l'école du dimanche, les enfants, là, aimaient ça apprendre ce verset-là. Jésus pleura. C'est le plus court verset dans toute la Bible. Jésus pleura. Mais c'est une réalité. Jésus, le Fils de Dieu, a pleuré à cause de la mort de Lazare. Mais on sait que Jésus était la solution. Jésus a pu ressusciter Lazare d'entre les morts. Amen. Mais on peut s'identifier là et voir que Jésus sait s'identifier avec nous. Et dans Ésaïe 53, verset 3, ça dit, en parlant de Jésus, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Donc, Jésus a été méprisé et abandonné des hommes. Je ne sais pas si vous avez déjà été abandonné des hommes. Les gens se sont détournés de vous, peut-être a causé une blessure dans votre cœur. Et on se dit, mais pourquoi Jésus, lui, a été méprisé et abandonné des hommes? Mais il l'a fait pour nous. Jésus a vécu cette souffrance-là parce qu'il savait que nous, on était pour le vivre aussi. N'est-ce pas merveilleux de savoir comment Dieu est tellement préoccupé avec nous? Il est tellement merveilleux. On a tellement un bon Dieu. Il a pu souffrir ça. Et dans Hébreux 4, verset 15, on lit, ça dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ici, on voit que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Et Jésus, qui était 100% homme, a été tenté avec les mêmes choses. Alors, on sait qu'il a vécu une vie normale, une vie d'être humain comme nous, qui pouvait pécher s'il voulait, mais il a toujours demeuré dans la volonté de Dieu sans jamais tomber. Mais ça, ça nous montre vraiment que Jésus était un être humain. Puis quand quelqu'un mourait, entre autres comme Lazare, il était touché là-dedans. Mais il sait aussi comment compatir avec nous quand on passe à travers une épreuve. Puis pourquoi que je parle de ça aujourd'hui? Vous savez, bon, je viens de parler tantôt comment Vincent Gilbert est décédé cette semaine. C'est une chose qui m'a inspiré dans la prédication de la parole. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est parce que je crois que c'est vraiment, vraiment important, non seulement qu'on s'équipe avec toutes les promesses de Dieu, mais en même temps qu'on s'équipe avec la compassion qui vient avec notre marche chrétienne. Moi, je crois qu'un chrétien peut marcher dans la victoire, absolument, mais en même temps, connaître l'intimité avec Dieu au niveau, même si on passe à travers la souffrance, on peut bien refléter l'amour de Dieu. Ça, je trouve que un sans l'autre, là, ça fait des chrétiens déséquilibrés. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut faire. On veut pas créer une église de personnes déséquilibrées ici. Parce qu'il y a vraiment le potentiel, je peux vous dire. Il y a le potentiel, parce que vous pouvez entendre mes prédications. Ouh, oui, c'est vrai, on est victorieux. Puis là, quelqu'un qui ne vit pas une victoire, là, on se met à juger. C'est pas ça. Et j'en ai vu souvent aux États-Unis des églises comme ça. Des églises qui enseignent vraiment la vérité, mais les gens, ils prennent ça et interprètent ça mal, et puis ça fait des désastres. Et puis il y a des livres qui s'écrivent là-dessus après pour discréditer le message de la foi. Mais le message de la foi, là, la vraie foi, c'est toujours en Dieu, puis Dieu est amour, donc on ne peut pas séparer les deux. Amen. Donc, on veut être une église équilibrée. Et vous savez, même oser croire, des fois sans comprendre, c'est une chose. Vous savez, dans notre famille, on a vécu un temps où on pouvait mettre de côté notre foi. Je me souviens, j'étais en Alberta, c'était au mois de novembre, je crois, et puis ma mère a été très malade, et puis nous, on priait pour elle. Et puis, vous savez, l'ennemi voudrait venir enlever notre foi. Puis quand on a prié pour une telle chose, puis on n'a pas vu la réponse qu'on voulait, moi, je me souviens, le diable est venu comme marceler dans un certain sens, puis me dire, « Joël, tu n'as pas le choix de débarquer de ta foi. » J'étais en train de conduire mon auto. On avait prié pour une guérison surnaturelle pour ma mère, qui ne l'a pas reçue d'une façon surnaturelle. C'est venu d'une façon progressive, sa guérison, gloire à Dieu. Mais ça pour dire, on priait qu'elle ne passerait pas à travers certaines choses. Et puis, pendant que j'étais en train de conduire mon véhicule, j'étais accablé. Et le diable, il est venu puis il a dit, « Joël, c'est quoi la différence entre toi et un inconverti? Tu es là, toi, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait ci, tu as fait ça. Et puis là, tu n'as pas vu qu'est-ce que tu souhaites avoir. Tu es obligé, Joël, de débarquer de ta foi et faire ce shift, cette transition dans une nouvelle théologie de doute. » Et puis, vous savez, là, pendant quelques instants, en conduisant mon auto, attristé, c'était comme si je me sentais coincé par l'ennemi. Mais tout d'un coup, j'ai réalisé une chose. Ben, le Seigneur m'a dit, « Joël, je suis encore sur le trône. Je suis encore sur le trône, même si tu ne comprends pas. Ce n'est pas important que tu comprennes toute chose, Joël. » J'étais en train de conduire mon auto, puis là, la présence de Dieu est venue dans mon véhicule. Je me suis mis à pleurer. Puis je savais là que, savez-vous, mon cerveau, ce n'est pas mon Dieu. Le diable voudrait nous mettre dans un coin, puis qu'on soit, comme on dit, non, il faut que je comprenne tout. Non, moi, j'ai dit au diable, sais-tu, je ne comprends pas. Mais je ne suis pas obligé de tout comprendre. Dieu est encore sur le trône. Puis je vais encore croire les promesses de Dieu. Je ne fais aucun changement théologique à cause de ça. Je n'en fais pas de changement théologique. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. La parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu ne change pas malgré les épreuves, malgré des fois des déceptions qu'on peut vivre. Et le problème qu'on a vu des fois, c'est que les gens croient dans toutes ces choses qu'on vous prêche. Les gens vont croire dans la foi, la guérison, tout ça. Puis quand ils vivent une épreuve, tout d'un coup, la théologie prend la débarque. Puis les gens se disent, « Bien, ça n'a pas marché, je suis obligé de tout reviser mes affaires. » Mais on a le choix, gloire à Dieu. On n'est pas obligé de tout comprendre. On peut continuer à croire sans comprendre. Et savez-vous, là, quand on fait ça, des fois, Dieu nous montre par la suite des choses qu'on ne comprenait pas. Et en tout cas, j'ai tellement de choses à vous raconter, mais je peux vous raconter un témoignage. Quand j'étais en Alberta, il y avait un jeune homme qui avait, en tout cas, le mari de Shirley, il avait quel âge? Il y avait un jeune homme de 27 ans qui disait toujours qu'il était pour mourir avant l'âge de 30 ans. Il disait toujours ça, mais on ne savait pas, nous, qu'il disait ça. Et puis, il a vécu un accident d'auto et un accident de camion, puis finalement, il est décédé. Son épouse était enceinte. C'était tragique, c'était super triste. Et puis, les gens de l'Église ont commencé à faire toutes sortes de théories théologiques là-dessus, puis pour donner des explications. Puis, je peux vous dire, moi, là, je comprenais pas la situation, mais j'ai dit une chose, je ne changerai pas ma façon de croire, je ne changerai pas ma façon de parler. Je vais continuer à honorer Dieu avec mes paroles, même si je ne comprends pas. Et puis, c'est moi qui ai fait les funérailles. Après tout ça, j'ai parlé avec la famille et puis il y avait la belle-mère qui me dit, elle me parlait un petit peu de ce jeune homme-là. Puis j'ai posé question, j'ai dit de quoi qu'il pensait ou de quoi qu'il parlait de ce temps-ci. Elle dit, même la journée qu'il est mort, il avait dit, je ne me rendrai jamais à l'âge de 30 ans. Il avait dit ça la journée même. Puis elle dit, il disait toujours ça. Elle dit, c'est spécial, hein? Mais vraiment, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, si on décrète toujours ça, là, on a compris par la suite qu'il avait ouvert une porte à l'ennemi pour venir le chercher avant son temps. Mais tout ça pour dire que j'aurais pu tout d'un coup même prêcher du haut de la tribune puis dire toutes sortes de choses à son sujet. C'est ça des fois que les gens vont faire pour consoler. Mais est-ce qu'on veut compter des mensonges aux gens pour consoler les gens? Est-ce que compter un mensonge à quelqu'un, c'est la façon que Dieu veut qu'on emploie pour consoler quelqu'un? Non. Toujours, toujours, il faut demeurer dans la vérité, même si on ne comprend pas. Puis par la suite, Dieu, là, il nous révèle des choses si on a à le comprendre. Puis si c'est juste rendu au ciel qu'on comprend ça, c'est correct, mais on ne change pas notre façon de croire. On ne change pas nos convictions qui sont basées dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Je sais que ce soir, là, c'est peut-être pas une prédication qui vous fait sauter et se faire crier, puis wouhouhou, alléluia. Mais je pense que c'est bon des temps aussi où on s'arrête, puis on prend la décision, savez-vous, on va croire la parole de Dieu, peu importe les épreuves. Parce qu'on peut prêcher la victoire, mais s'imaginer que tous les chrétiens vivent la victoire tous les jours de leur vie, est-ce que c'est une réalité? Ou est-ce qu'il y en a parmi nous des fois qui vont chuter, qui ne vivront pas une victoire? Ça se peut, hein? Ça se peut. Parce qu'il faut être réaliste, puis là-dedans, savoir comment marcher. Mais peu importe la chose qu'on peut vivre, ce que je veux vous encourager aujourd'hui, c'est que Dieu, Jésus est notre source d'espoir. Amen. Jésus est notre source d'espoir, peu importe la situation. Je veux vous inviter aujourd'hui dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 14. Gloire à Dieu. Le Dieu de toute consolation. Jésus est notre guérisseur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 14. Donc, Jésus est celui qui nous guérit, mais Jésus est également celui qui sait nous consoler. Amen. Donc, je lis dans la Bible du Semeur. « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes. » Vous voyez, quand on n'a pas Dieu, et quand on sait que la personne n'avait pas Dieu, on peut être super détruit. Mais quand on est sauvé, né de nouveau, puis on sait aussi que la personne qui est décédée est née de nouveau, bien là, on est triste, mais pas de la même façon qu'une personne sans Dieu. Parce que les gens sans Dieu n'ont pas d'espoir. Mais nous, et au verset 13, c'est-à-dire nous ne sommes pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance, au verset 14. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alors, c'est ça notre espoir aujourd'hui, que Jésus va revenir ressusciter tous les morts. Ça, c'est quelque chose de merveilleux qui peut nous encourager, peu importe la situation. Et même dans nos vies, des fois, il peut y avoir une chose qui peut sembler morte dans notre cœur, une relation avec quelqu'un, mais Jésus est capable de venir même ressusciter ça. Peut-être c'est une question de votre foi à un certain niveau dans votre vie. Peut-être vous n'osez plus croire à une certaine promesse que Dieu vous a donnée. On dirait des fois, c'est comme si j'ose croire à cette chose-là, que j'ouvre la porte à encore une autre déception. Mais aujourd'hui, peut-être le Saint-Esprit veut souffler sur vos cœurs pour venir ranimer cette flamme-là, pour ressusciter ce désir dans votre cœur d'oser croire en Dieu pour des grandes choses. Dieu nous donne l'espoir à cause de la résurrection. Et Jésus nous donne également sa grâce. Et vous savez, le mot « grâce », ça nous parle de la faveur de Dieu. Des fois, on parle du mot « grâce » puis les gens pensent que c'est juste un mot religieux. Ça peut le devenir aussi juste un mot religieux qu'on ne comprend vraiment pas c'est quoi ça veut dire. Mais la grâce, ça nous parle de la faveur de Dieu non méritée, mais aussi quand on prie que Dieu donne la grâce à quelqu'un, on prie vraiment que le Saint-Esprit vienne engourdir la personne d'une façon surnaturelle pour que la personne puisse passer à travers une épreuve d'une façon surhumaine. Moi, je crois là-dedans. Je crois que Dieu est capable de venir mettre un baume sur le cœur d'une personne et même si c'est tragique, même si c'est super triste, la personne peut passer à travers comme si c'était d'une grâce spéciale. Vraiment, merci. Quelque chose qui est plus facile à passer à travers à cause de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être que vous passez à travers quelque chose de difficile. Et vous savez, Dieu nous donne des exemples dans sa parole pour savoir comment nous, on peut réagir. Vous savez, dans Nombre, chapitre 11, on voit ici comment Moïse s'est senti. Donc, Moïse, pour nous, c'est quand même un bon modèle. Nombre, chapitre 11, versets 14 à 15. Ici, là, Moïse, il parle de son cœur. Ici, « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Est-ce que vous êtes déjà senti dans une situation comme ça? Vous étiez tellement comme écrasé par un fardeau, puis là, vous dites à Dieu, « Seigneur, c'est trop pour moi, j'en peux pas, c'est trop pour moi de porter ça tout seul. » Et ici, on voit Moïse qui était comme ça, il dit, « C'est trop pour moi, il est trop pesant pour moi. » Verset 15, « Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » C'est un temps de désespoir pour que Moïse prie une prière ainsi, « Tue-moi, Seigneur, c'est trop. » Je ne sais pas, peut-être que vous n'avez jamais passé par là, de vivre des émotions comme ça. Mais comme Dieu avait une solution pour Moïse, et c'était les 70 anciens, Dieu a dit, « Inquiète-toi pas, Moïse, je vais t'envoyer là, des personnes, appelle 70 anciens d'Israël. » Et puis Dieu avait une solution pour lui, parce que Moïse a su crier à Dieu. Pareillement, si on tourne nos regards vers Dieu, on va être rayonnant de joie, malgré une épreuve. C'est merveilleux, ça. Donc, Dieu a une solution pour vous. Si vous avez déjà ou si vous êtes dans un temps d'épreuve dans votre vie, Dieu est là, Jésus est là pour vous donner sa grâce, pour passer à travers ces choses-là. Parce qu'en 1 Pierre 5, 10, j'aime ça, ça nous parle que c'est le Dieu de toute grâce, ou dans la Bible du Sommeur, ça dit Dieu est l'auteur de toute grâce. L'auteur de toute grâce, l'auteur de toute faveur. Sa présence dans nos vies, ça nous permet de passer à travers n'importe quelle situation. C'est ça qui fait la différence entre nous et un inconverti. Un inconverti, quand il vit un deuil, il vit ça tout seul. Il vit ça peut-être entouré d'amis, mais il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Et moi, je me souviens même, ma mère, là, dans plusieurs années, ma sœur est allée habiter en Autriche, cette fois-là. Et puis, dans le temps, ma mère était bien ennuyeuse. Si ma sœur partait, là, ma mère s'ennuyait. Et puis là, ma sœur s'en allait pendant 10 mois, je pense, en Autriche, 11 mois, quelque chose comme ça. Puis les gens demandaient à ma mère, ça c'était là, bien des années, ma sœur, elle avait 17 ans. Là, les gens demandaient à ma mère, comment tu passes à travers ça? Là, elle est partie pendant là, tant de mois. Puis là, ma mère, je me souviens, elle disait, ah, oh, je dois avoir la grâce de Dieu parce que vraiment, là, je m'ennuie pas tant que ça. Là. Mais c'était vrai, c'est la grâce de Dieu parce qu'avant ça, elle s'ennuyait beaucoup, beaucoup. Mais ici, on voit, Dieu, c'est l'auteur de toute grâce. Alors, on devrait se tourner vers Dieu pour recevoir son secours, pour se réfugier en lui quand on passe à travers des temps difficiles. Et dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, ici, ça dit, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Donc, si Jésus a déjà tout porté nos souffrances, pourquoi est-ce qu'on veut les porter sans lui? Pareillement, on va parler de la guérison divine. Pourquoi est-ce qu'on veut porter nos maladies s'il les a déjà portées pour nous? Pareillement, s'il a porté nos souffrances, on doit se tourner vers lui quand on passe à travers une souffrance pour être réfugié en lui. Amen. Donc, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, Jésus a tout vécu ça pour nous donner la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et on va prendre ce texte-là pour nous parler de la guérison physique. Et absolument, ça a rapport avec la guérison physique, mais ça a également rapport avec la guérison de notre âme. Donc, Jésus a payé le prix pour ça. Dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, ici, on voit, en parlant, ça c'était prophétiquement parlant de Jésus, c'est dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'était une des missions de Jésus en venant ici, c'est de venir guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, si vous avez le cœur brisé aujourd'hui, Jésus est ici aujourd'hui pour vous donner sa grâce à ce niveau-là, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Vous voyez comment Dieu est bon. Ensuite, ça dit une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. J'aime ça, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Si jamais vous êtes dans une situation où vous vous sentez dépassé, vous vous dites, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir de cette situation-là? Comment est-ce que je vais faire pour me sortir de cette épreuve? Une des recettes, pas magique, mais une recette biblique, c'est la louange. Louer Dieu. Moi, je connais une dame, il y a plusieurs années, qui a vécu toutes sortes d'épreuves. Elle a perdu ses enfants, perdu son mari, tout ça. Et puis, elle est venue me voir, puis elle a dit, Joël, je ne sais pas quoi faire. Puis j'ai dit, je peux juste te dire une chose, loue le Seigneur. Loue pas le Seigneur pour l'épreuve, mais loue le Seigneur dans l'épreuve, en toute chose, pas pour toute chose, mais en toute chose, on loue Dieu. Puis j'ai dit, c'est pas un cliché que je veux te donner, mais vraiment, je veux t'encourager, parce que quand on loue Dieu, le Seigneur vient vers nous, vient nous donner le réconfort, parce que Dieu habite la louange de son peuple. Comme on loue Dieu, malgré l'épreuve, même si ça ne nous tente pas, on se met à louer Dieu et la présence de Dieu vient sur nous, vient nous consoler, vient nous entourer. Puis peut-être aujourd'hui, vous n'en vivez pas d'épreuve. Peut-être vous êtes sur la nuée avec le Père, peut-être vous êtes sur le haut de la montagne, mais peut-être un jour, vous allez avoir besoin de ce message-là. Puis je prie que Dieu va vous ramener ces paroles-là, savoir comment réagir. Louez Dieu dans votre maison, louez Dieu dans votre auto, louez Dieu dans votre sous-sol, partout où c'est que vous vous promenez, louez Dieu. Et Dieu va vous rencontrer, puis il va vous donner cette huile de joie. Puis vous avez dit, mais l'huile de joie, qu'est-ce que tu veux dire, Joël? Vous savez, dans la parole, ça dit, dans 1 Thessaloniciens 5, 16, ça dit, soyez toujours joyeux. Est-ce que Dieu voulait dire vraiment être toujours joyeux? Moi, je me souviens, à l'école biblique, j'ai posé ça à un de mes professeurs. J'ai dit, bien, comment est-ce qu'on peut faire être toujours joyeux? Quand quelqu'un vient de décéder ou quand on vient de vivre une super de grosse épreuve, comment est-ce qu'on peut être joyeux? Et je me souviens, le professeur me disait, tu sais, Joël, c'est pas une question de rire ou de sauter puis d'avoir toutes les expressions puis faire à semblant qu'on est super content quand on est attristé. Mais être joyeux, c'est d'avoir dans notre cœur ce sentiment de paix puis d'une confiance en Dieu, qu'on a une joie malgré la chose, parce qu'on sait que Dieu est souverain, puis Dieu est au-dessus de ce problème-là. Donc, c'est ça, on peut toujours être joyeux malgré l'épreuve. Puis dans Galates 5, 22 à 23, ça dit, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Mais qu'est-ce qu'on veut voir ici? C'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la joie. Vous savez, là, la joie, c'est une force spirituelle. Quand vous êtes né de nouveau, vous avez reçu le fruit de l'esprit qui reste à développer. Le plus qu'on s'approche de Dieu, ce fruit-là dans nos vies va se développer. On va devenir un chrétien plus sanctifié. On va avoir plus du fruit de l'esprit dans nos vies. Mais il est déjà là, il reste juste à grandir. Mais le plus qu'on est mature, le plus qu'on a. Amen. Donc, même si vous passez à travers une épreuve, vous avez la joie en dedans de vous. Que vous sentez ou non, vous avez de la joie là. Ça vous appartient. Ça fait que vous n'avez même pas besoin d'essayer de l'avoir. Vous l'avez, la joie. Là, c'est une question de laisser ressortir. Hey, mais comment est-ce qu'on fait ça malgré l'épreuve? Mais dans Néhémie 8:10, ça dit « La joie de l'Éternel sera votre force. » Donc, c'est une force qui vous aide à passer à travers des situations. La joie de l'Éternel. Vous savez, la foi, c'est une force. Si on dit « La foi peut déplacer des montagnes », il y a quelque part, il y a une force là pour déplacer la montagne. Elle ne se déplace pas tout seul. C'est la force de la foi qu'on relâche. Pareillement, si on relâche la joie dans une situation difficile, c'est une force spirituelle qui est animée par l'Esprit de Dieu pour nous aider à passer à travers une chose. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire attention à ne pas mettre ça de côté puis dire, ben, je suis dans un désespoir total, mais il faut trouver notre refuge en Dieu puis laisser l'Esprit de Dieu faire le ministère qu'on a besoin pour nous aider à passer à travers des difficultés. Amen. Donc, Dieu nous donne sa joie, une force surnaturelle. Et la promesse que Dieu nous donne, en psaume 30, verset 6, ça dit, « Si le soir des pleurs subsiste, au matin, la joie éclate. » C'est quelque chose là qu'on ne peut pas contenir. La joie de Dieu, ça éclate partout. Puis c'est pour ça, moi je peux vous dire, la même dame à qui j'ai dit « Loue le Seigneur dans ton épreuve, loue le Seigneur », elle disait que les gens pensaient qu'elle était folle après. Ils ont dit, mais coudonc, qu'est-ce que t'as? T'es trop contente, c'est quoi qui se passe? Ben, c'est la grâce de Dieu, c'est la joie de Dieu. Elle passait son temps dans sa maison à prier dans d'autres langues, elle priait le Seigneur, elle louait le Seigneur, puis la joie de Dieu l'a envahie, puis elle s'en allait voir des psychologues, puis trouvait comme, t'es pas normal. Mais c'est vrai, on n'est pas normal. On n'est jamais normal, nous autres. Sur rien, on n'est pas normal. On ne vit pas le deuil comme le monde normal, on ne vit pas les épreuves, la maladie non plus, parce que nous, quand on est malade, on se tourne vers Dieu, on est guéri. Les inconvertis, eux autres, ils vont chercher leur aspirine. Nous, on peut aller chercher l'aspirine et croire que l'aspirine va marcher aussi. Amen. On n'est pas limité. Si on prend l'aspirine, on croit que l'aspirine va marcher au nom de Jésus. Mais on n'est pas tout seul. C'est un message aujourd'hui pour vous encourager. Peu importe l'épreuve que vous faites passer à travers, là, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes jamais tout seul parce que Dieu est là. Une autre chose que je veux vous encourager, là, si vous ne passez pas à travers une épreuve, mais vous connaissez quelqu'un qui passe à travers quelque chose de difficile, je veux vous laisser savoir, des fois, on sent la pression comme, mais c'est quoi que je vais dire, moi, la personne qui vit l'épreuve? Et la chose, des fois, qu'on ne doit pas dire, là, ou qu'on devrait faire, c'est simplement rien dire. Savez-vous, le silence est tellement précieux. Au lieu de dire des conneries, c'est vrai. Des fois, là, on entend des chrétiens dire des choses, citer un verset hors contexte, ça me griche dans les oreilles. Mais vous savez, des fois, c'est mieux de juste être là, d'être présent pour une personne, puis laisser savoir à la personne qu'on prie pour elle. C'est tout, des fois, que la personne a besoin. Savoir qu'on est là, qu'on prie, puis le silence, ça en vaut pour beaucoup. Puis si, là, on peut faire ça, nous, là, simplement prier pour les gens, aimer les gens, être silencieux, wow, ça, c'est merveilleux. Amen. Puis, cette semaine, je peux vous dire que on a vécu des choses, même, je peux vous dire, mon grand-père est décédé hier. Mon grand-père, je suis heureux pour lui parce qu'il est rendu au ciel. Mon grand-père avait 80 ans. Puis c'est sûr que c'est triste parce que, bien, c'est sûr que pour la famille, c'est triste de perdre quelqu'un qu'on aime, mais on est heureux. Moi, ma joie dépasse le chagrin. Pour moi, je suis plus heureux pour lui parce que je sais qu'au rendu au ciel, il est tout restauré. Parce qu'avant de mourir, il était malade, mon grand-père. Et puis, aujourd'hui, il est complètement restauré. Il est au ciel. Je te gage, il se baigne dans la rivière de la vie. Ça, c'est merveilleux. Et puis là, on sait qu'il est restauré même dans son apparence physique. Il est plus jeune. Là, il ressemble peut-être à moi, là, dans les trentaines. Gloire à Dieu. C'est bien ça. Amen. Et puis, une des choses, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on décède. Vous allez dire, hey, c'est tout un enseignement. Je ne pensais pas de m'en venir à l'église puis recevoir ça aujourd'hui. Hein? Mais vous allez voir, quand votre pasteur vit des choses, des fois, il va partager de son cœur aussi. Amen. C'est-tu correct, ça? Donc, peu importe l'épreuve, Jésus nous donne la grâce, Jésus nous donne l'espoir et la joie. Et en rapport avec l'espoir que Dieu nous donne, on sait que, quand on meurt, on n'est pas simplement un corps, mais on est un esprit qui habite dans un corps qui est une âme aussi. Dans 2 Corinthiens 5, verset 8, ça nous parle de notre corps glorifié. Quand on va se rendre devant Dieu, on va avoir ce corps-là glorifié. Et ça nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 8, ça dit, « Nous préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. » Quand on quitte ce corps, quand on est un enfant de Dieu, on s'en va auprès du Seigneur. Et dans Romains 8, 22 à 23, c'est-à-dire, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, donc des enfants de Dieu, nous aussi nous soupirons et nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Et là, vous avez dit, « Joël, je pensais que Jésus nous avait racheté de la malédiction. » Absolument. Mais le rachat de notre corps, même si ça a été fait, ce n'est pas totalement fait parce qu'il reste une portion qui reste à être accomplie, celui de la glorification de notre corps. Parce qu'on n'est pas rendu au ciel encore. Je ne peux pas encore passer à travers les murs. Mais un jour, je pourrais faire ça. Donc, j'attends ce jour. Je n'essaierai pas ce soir. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42 à 44, ça dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, les corps, le corps plutôt, est semé corruptible ou mortel, selon la Bible en français courant. Il est ressuscité incorruptible, immortel. » Verset 43, « Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme et ressuscite plein de sources. Il est semé corps animal, ou dans le français courant, c'est-à-dire un corps matériel. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, un corps matériel, il y a aussi un corps spirituel, un corps animé par l'Esprit. » Alors, on a cette espérance que même si on dépose quelqu'un dans la terre, on sait que Dieu va ressusciter cette personne-là. Et puis, cette semence corruptible va devenir un corps incorruptible. Et on a également l'encouragement dans la parole de Dieu de cette résidence céleste. Non seulement est-ce que notre corps va être glorifié, mais on va habiter dans une place super cool, merveilleuse, le ciel. Dans Jean 14, on va lire ici Jean 14, 1 à 3. Ça nous parle de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà? Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, c'est Jésus qui parlait. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, Dieu est allé nous préparer une place au ciel. Puis j'aimerais ça vous laisser savoir que le ciel, c'est une place réelle. Puis vous savez, si vous êtes un enfant de Dieu, mais c'est littéralement une place réelle. Puis c'est pas comme dans les annonces du fromage cottage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Philadelphia, pardon. Vous voyez ça, là, les personnes qui marchent dans les nuages, et puis là, il y a un monsieur musclé qui c'est un ange, puis il tartine les bagels. C'est pas ça, le ciel. Le ciel, c'est une vraie place et il y a des vraies maisons. Et je ne sais pas si vous connaissez Jesse Duplantis, mais il partage son témoignage quand Dieu l'a ravi au ciel puis a vécu une expérience comme l'apôtre Paul a vécu dans la parole de Dieu. Puis il a appris toutes sortes de choses là-bas. Et puis j'ai écouté ce témoignage-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis il nous partage des choses, entre autres, il dit « Ma maison au ciel, Dieu a permis que je puisse voir ma maison au ciel. » Je dis « Ah, ben j'ai pas parlé avec lui, mais j'ai dit « Ah ouais, à moi-même. » Et puis, en tout cas, c'est tellement personnel, il me partage à moi. Mais il partage dans le DVD. Il dit, moi, là, j'ai toujours aimé les meubles Queen Anne, comme américain, là, avec les pattes, en tout cas, d'une certaine façon. Puis il dit, je rentrais dans ma maison, puis j'ai tout vu le décor. Puis il a demandé, je crois, à l'ange qui était là avec lui, mais comment ça, c'est décoré de même? Puis là, l'ange a dit, ben, Dieu connaît tes goûts. Il s'est organisé pour faire une maison à ton goût. C'est le fun, ça? Imaginez, là, ça coûte rien. Ça coûte pas cher. Ici, ça coûte cher, on voit qu'est-ce qu'on veut. Au ciel, ça ne coûte rien. Mais ça, c'est une chose. Et puis, c'est tellement une place réelle. Et des fois, on pense que quand on va arriver au ciel, que tout va être automatique, que notre connaissance va être là tout d'un coup, qu'on va tout connaître tout d'un coup. Mais quand on va arriver au ciel, si on n'a pas pris du temps à apprendre à connaître Dieu ici, on va finir à apprendre sur lui au ciel, avant même de le rencontrer. Vous dites, attends, hein, c'est quoi ça? Jesse Duplantis, puis ça, si vous ne le croyez pas, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est un témoignage d'une chose qu'il a vécue. Sauf que si vous ne voulez pas croire ça, c'est entre vous puis Dieu, ça ne dérange pas, mais je vous partage une expérience qu'il a vécue. Mais ce n'est pas ainsi par le Seigneur, c'est ainsi par Jesse Duplantis. Et puis, il partage que quand il était là-bas, il voyait des enfants à l'école, puis qui apprenaient, des gens qui apprenaient à l'école. Puis il a demandé à l'ange qui faisait une tournée du ciel, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font eux autres à l'école? Et l'ange a dit, ben ces gens-là, était sauvé, né de nouveau, mais il n'avait pas pris le temps vraiment d'apprendre à connaître Dieu. Donc, avant de rentrer dans sa présence, ils sont à l'école, ils apprennent le protocole, puis tout ça. Là. C'est spécial. C'est spécial quand même. Et c'est tellement une vraie place. Je me souviens, Joan DeWort, qui est au Miracle Channel, c'était une amie à nous, puis elle nous partageait, Mathilde et moi, si on peut dire, elle parlait vraiment à nous. Là. Elle nous racontait son témoignage. Étant en avion, elle revenait d'Israël, ou elle s'en allait en Israël. Et puis, elle demandait au Seigneur, sa mère venait de décéder. Puis elle dit, Seigneur, j'aimerais donc ça, que tu montes juste comme un clip du ciel. J'aimerais ça voir ma mère, voir comment elle va. Vous savez, là, quand on vient de perdre quelqu'un, des fois, là, on peut dire toutes sortes de choses à Dieu. Hein, puis, j'aimerais ça voir la personne, juste pas appeler les morts pour faire une séance. C'est pas de ça. Partez pas de l'église puis dites que je suis en train de dire des choses pareilles. Mais elle demandait au Seigneur, j'aimerais donc ça juste savoir qu'elle est bien ma mère. Puis elle savait qu'elle était née de nouveau, tout ça, mais c'était comme une prière comme ça qu'elle a mis à Dieu. Puis Dieu, il a fait voir une vision de sa mère au ciel. Puis elle dit qu'elle a vu sa mère, qui était environ mon âge, et puis est en train comme ça de taper son petit doigt de même sur le bord d'un comptoir, puis il y avait plein de petits bébés avec elle. Puis en tout cas, quand elle est revenue de cette vision-là, elle était super émue, parce qu'elle a dit, moi, ma mère a toujours aimé les enfants, puis elle a dit, je sais que ma mère est dans une pouponnière au ciel en train de prendre soin des petits-enfants qui ont été avortés. C'est de quoi ça, hein? Mais en tout cas, il était super ému d'avoir vécu ça. Mais le ciel, c'est une vraie place. Que vous croyez ces témoignages-là ou non, c'est une vraie place. Et comme on marche sur une vraie terre, le ciel, c'est juste une autre dimension. La vie, ça l'arrête jamais. Même si on meurt aujourd'hui, notre esprit vit éternellement. Que si on est éloigné de Dieu, bien, on va être éloigné de lui pendant l'éternité. Mais si on est proche de lui, on va être avec lui pendant l'éternité aussi. Ça, c'est merveilleux d'avoir cette consolation-là aujourd'hui, qu'on a de l'espoir et qu'on a une belle maison qui nous attend au ciel. C'est pour ça qu'on ne croit pas dans un Dieu de pauvreté. Si Dieu n'aimait pas ça, la richesse puis l'abondance, on aurait des chacs au ciel. Mais Dieu nous dit de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, si au ciel, on a une belle maison, pourquoi pas sur la terre? Je viens de vous rajouter un petit clip de prospérité, là. Faut que j'en rentre partout. Je suis un prédicateur de prospérité. J'en mets partout. C'est impossible. Le shalom de Dieu, c'est rien manquant, rien de brisé. Ça, c'est ce que je crois. Apocalypse 21, 3 à 4, si ça nous parle, dans la cité céleste, si Jean a partagé ça, il dit, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. N'est-ce pas merveilleux, ça? Ça fait que quand quelqu'un s'en va au ciel, ils n'ont plus de chagrin. Et Apocalypse 7, versets 16 à 17, c'est dit, « Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif, ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Amen. Amen. Ça, c'est merveilleux. Mais on peut connaître ça au sujet de Dieu comment? Oui, on a une grande destinée ultime. Là. On sait qu'un jour, si on a servi Dieu, qu'on va se rendre au ciel et on va pouvoir faire partie de cette grande planète-là, qui est le ciel. Mais l'invitation ultime, c'est dans notre quotidien. C'est de connaître Dieu et de le recevoir comme étant notre refuge sur une base quotidienne. Pas simplement dans l'au-delà, pas simplement trouver un refuge en Dieu dans un moment comme ça. Parce que vous savez, des fois, les gens se tournent vers Dieu juste quand ils vivent des choses terribles. Une grosse épreuve, puis là, tout d'un coup, les gens se tournent vers Dieu. Comme vous vous rappelez, après le 11 septembre, là, les gens là, s'en allaient à l'église. Il y avait la tour qui s'est effondrée comme ça. Là, tout le monde s'en allait à l'église. Puis là, il allait à une église où il recevait une parole de mort. C'est ça, il allait dans des églises mortes. Puis là, les gens recevaient toutes ces paroles-là, puis ils se détournaient finalement parce que c'était pas vraiment qu'est-ce qu'il avait besoin pour être rassasié. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est se tourner vers Dieu à tous les jours pour être rempli de lui à tous les jours. Donc, l'invitation ultime, c'est se tourner vers lui. Dans 1 Pierre 5, verset 7, c'est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Peut-être que vous avez perdu un emploi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Portez pas ces fardeaux-là. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on porte les fardeaux qu'il a déjà portés pour nous. On a besoin de se tourner vers lui. Puis des fois, c'est difficile. Il y en a des fois, des gens même, ils se sentent coupables parce qu'ils sont trop joyeux dans une situation qui serait censée d'être plus détruite, plus défaite. Ils disent, ben, je ne peux pas être comme ça, là, parce que qu'est-ce que les gens vont dire? Mais quand la grâce de Dieu vient s'installer, des fois, là, on est libéré, on a vraiment comme un baume de guérison, on a la grâce de Dieu, puis c'est correct. Qu'on se décharge sur lui, qu'on prenne notre repos en lui. Dieu est tellement préoccupé avec ses enfants, il veut ça pour nous, qu'on puisse trouver notre refuge en lui. Et dans Jean 7, 37, ça dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Vous savez, là, ça, c'est la présence de Dieu qui est disponible pour chacun d'entre nous. Que ça y aille bien, que ça y aille mal, des fleuves d'eau vive, qu'on puisse se baigner dans la présence de Dieu, qu'on puisse vraiment passer du temps avec lui. Peut-être que ça fait longtemps même que vous avez reçu cette touche-là dans votre cœur. Moi, je crois même ici à l'aéroport de Bromont, où on est rassemblés, qu'il y a des fleuves d'eau vive ici. Pendant qu'on se rassemble, maintenant, on peut ressentir la présence de Dieu même ici. Puis on peut laisser le Saint-Esprit faire du ministère dans nos corps. C'est ça l'invitation d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse dire oui, je me tourne vers Dieu pour être mon refuge en tout temps, bon temps, mauvais temps. Et même ce CD-là, on sait aujourd'hui que ça s'en va même à la radio. Peut-être qu'il y a des gens à la radio aujourd'hui qui ont été touchés dans leur vie avec des choses tristes. Mais aujourd'hui, l'Église de Bromont, nous aussi, on relâche notre foi pour le Saint-Esprit sur vous pendant que vous conduisez votre auto. On est une grande famille. Vous savez, c'est important. Il y a des gens qui se préoccupent avec plein de détails dans la vie. Ils vont se préoccuper, par exemple, des assurances d'auto qu'on doit prendre, des assurances de maison, des assurances de voyage. Mais des fois, on ne prend pas l'assurance de la vie éternelle non plus. On ne pense pas des fois à l'au-delà. Aujourd'hui, on a partagé beaucoup de choses sur l'au-delà. Mais il faut s'arrêter un moment puis vraiment réfléchir à ça. Est-ce que j'ai pris cette assurance-là pour la vie éternelle, pour ma vie? Est-ce que je me suis arrêté pour penser à ça? Puis dans Romains 10, verset 9, ça dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc, le salut, c'est quelque chose d'aussi simple qu'une simple confession. Une simple confession, mais qui vient du cœur. Au verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Et au verset 9 de 1 Jean 1, ça dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, on a une invitation. L'invitation ultime, c'est le ciel. Mais l'invitation d'aujourd'hui, c'est de trouver notre refuge en Dieu. Et des fois, on se dit, « Bien, Joël, moi, j'ai trop fait de choses pour vraiment trouver ce refuge en lui. Peut-être que j'ai commis trop de péchés, puis je me sens trop condamné. » Mais aujourd'hui, dans Romains 8, 1, ça dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut, qu'on puisse marcher avec lui et être débarrassé de tout fardeau. Que ce soit un joug doux et léger. Une marche avec Dieu, c'est supposé être comme ça, doux et léger. Pas sous un joug d'obligation, un joug de condamnation. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Mais qu'on soit dans la liberté dans notre relation avec Dieu. Mais ça coûte un prix, je peux vous dire, être comme ça. Parce qu'il faut arriver au point, si on reçoit toute cette provision-là, de la grâce de Dieu, la provision du pardon dans nos vies, il faut être prêt également à pardonner. Et ça peut être la barrière qui nous empêche d'entrer dedans. Est-ce qu'on veut recevoir le pardon, la grâce, la joie, toutes les choses qu'on a dit aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a une chose qui nous empêche d'entrer dedans. Puis c'est justement ça, un manque de pardon de notre part. Vous savez, dans Matthieu 6, verset 14 à 15, ça dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ça, c'est une chose. Des fois, là, on veut avoir toute la provision de Dieu, mais ça, c'est une chose qui peut nous empêcher d'entrer dedans. C'est si on garde dans notre cœur de l'amertume contre des personnes, ou si on se tient à l'écart à cause d'une offense dans notre cœur, peu importe la raison. Vous savez, dans Psaume 103, verset 12, ça dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Que Dieu, quand on se repent, Dieu prend nos péchés et les jette dans la mer de l'oubli. Il choisit d'oublier ces choses-là puis de les effacer de notre record, là, tout notre dossier. Là. Dieu fait ça. Mais nous, quand on pardonne quelqu'un, est-ce qu'on fait comme Dieu? Est-ce qu'on est prêt à pardonner comme Dieu pardonne? Arriver à un point où on met toutes ces choses-là de côté et choisir de plus jamais s'en rappeler. C'est une chose de dire, oui, je reçois le pardon de Dieu, mais est-ce que je suis prêt à relâcher comme les gens qui sont peut-être, qui m'ont offensé? Est-ce que je suis prêt à les pardonner? Est-ce que je suis prêt aussi à demander pardon à ces gens-là? C'est toute une prédication aujourd'hui, hein? Je ne pensais pas recevoir ça aujourd'hui. Ça n'arrange pas. Surprise! Avec Dieu, c'est comme ça. Amen. Alors, c'est toute une prédication aujourd'hui, même moi-même, je suis un petit peu surpris. Mais savez-vous, je crois que Dieu, là, qu'est-ce qu'il veut faire entre nous, là, c'est qu'on marche vraiment victorieusement. Ça, c'est un prix à payer dans notre vie, être prêt à recevoir le pardon de Dieu, la grâce, être prêt à se positionner pour recevoir toutes ces choses-là. Mais il faut en même temps être prêt à pardonner les gens et être prêt à se repentir aussi. Des fois, ça fait mal faire ça. Moi, je peux vous dire, là, la parole de Dieu nous dit « Recherchez la paix avec tous. » Que ça nous tente ou que ça ne nous tente pas. Puis moi, je me souviens, j'ai demandé pardon à des gens quand je n'étais pas coupable. C'était simplement pour acheter la paix. Vous avez dit, ah, tu peux-tu faire ça, Joël? Oui, on peut faire ça pour acheter la paix. J'étais dans une situation, j'étais en Californie. Je vais vous dire une petite histoire très courte ici, là. Mais on avait investi 100 000 $ Miracle Channel avait investi 100 000 $ pour aller monter un kiosque dans une grande place d'expo, là, pour présenter le ministère de télévision. Puis quand je suis arrivé là-bas au Miracle Channel, un des vice-présidents est venu à mon bureau, m'a remis le mandat. Il a dit, Joël, on a 100 000 $ pour monter cette chose-là, l'expo en Californie. T'es en charge. Parfait. Ça a pris un livre ça d'épais, juste savoir comment remplir les documents, tellement c'était compliqué. Ça me prenait 6 mois de préparation, cette chose-là. Mais en tout cas, tout ça pour dire, rendu en Californie, il y a des gens que j'avais assignés pour être sur le plancher, pour parler avec les gens, pour faire la représentation du ministère Miracle Channel. Et moi, je faisais du matin au soir, je faisais le plancher, puis bonjour, blablabla, je donnais des pamphlets, tout ça. Puis je faisais mon travail. Mais là, ça me tentait d'aller en break. Avez-vous déjà vécu ça? Ça me tentait de m'en aller en break. Sauf que là, je m'en vais, mais là, j'ai oublié mon portefeuille dans dans ma valise. Sauf que là, je reviens sur le plancher, je m'en viens dans un petit kiosque pour prendre ma valise. Quand je me reviens d'abord, tout le plancher était disparu. Tous ceux que j'avais cédulés pour faire le plancher étaient disparus. Ils sont partis magasiner. OK? Ils sont partis magasiner. Et puis moi, comme réaction, j'étais pas content. Ça fait que là, en tout cas, avec cette situation-là, là, j'ai corrigé un couple, entre autres. C'était des gens plus vieux que moi. Et puis, je leur ai dit, je n'ai pas apprécié que vous êtes partis pendant que vous étiez cédulés à travailler. Vous êtes partis, vous êtes allés faire quoi? On est allés magasiner, puis blablabla, puis il n'était pas du tout enseignable, OK? Mais moi, j'étais sidéré, j'étais scandalisé même par la réponse. Puis j'étais juste comme, c'est ça. Sauf que là, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais je ne pense pas que j'étais très, très méchant, mais j'étais juste quand même, j'ai amené une correction. J'avais raison, même à ce jour, je crois que j'avais raison. Mais tout ça pour dire, après ça, là, c'était la glace. C'est comme ça à côté de moi. Là. Tu sais, c'était la glace. Puis là, j'étais comme là-bas en Californie. Mais qu'est-ce que je fais, là, Seigneur? C'est comme, on ne peut pas travailler comme ça. Je retourne en Alberta. On est au bureau. Je vois ces mêmes personnes-là au bureau, là-bas, des chrétiens plus âgés que moi. On penserait qu'ils seraient un petit peu matures. Mais c'est la glace, comme ça. Là, là j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, montre-moi quoi faire. Puis Seigneur me dit, demande pardon. Mais Seigneur, j'ai rien fait. J'ai fait de ma job, moi, là. Demande pardon. J'ai dit, OK. Puis là, je demande pardon de quoi? C'était vrai que j'ai dit, puis c'était bon que j'ai fait. Mais là, le Seigneur travaillait. Bien, peut-être la façon que tu l'as dit. Peut-être que tu n'avais pas assez d'amour. Ah, ouais. Peut-être que ce serait l'affaire que j'ai faite pas correcte. J'ai cherché loin. Je me suis trouvé une façon de demander pardon. Puis là, je suis allé voir le couple en question. Puis j'ai dit, bien, je vais vous demander pardon la façon que je vous ai parlé. Pas de problème. Puis c'est ça. Gloire à Dieu. Ils m'ont pardonné. Gloire à Dieu. Mais tout ça pour dire, là, hey, j'ai demandé pardon, même si, en réalité, j'avais raison. Est-ce qu'on ose faire une chose pareille pour recevoir toute la provision de Dieu dans nos vies? Ou est-ce qu'on va empêcher, là, même à cause de l'orgueil, on va empêcher la main de Dieu dans nos vies, toute la provision, parce qu'on ne veut pas marcher dans le pardon? C'est notre choix. En réalité, toute la provision de Dieu qu'on prêche ici, c'est toujours une question de choix. On est placé devant un choix, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et Dieu nous dit, choisis la vie afin que toi tu vives et tes enfants. Donc, on a toujours un choix. Mais des fois, on n'a pas le choix de l'épreuve dans laquelle on passe. Hein? On n'a pas un choix de ça. Il n'y a personne qui choisit des épreuves des fois. Et Dieu, qu'est-ce que je trouve merveilleux, en lisant le psaume 91, ça nous parle quand on est dans la détresse ou quand on marche à travers la vallée de l'ombre de la mort dans le psaume 23. Ça ne dit pas si vous passez à travers des épreuves, mais c'est quand. Ça veut dire que tous les enfants de Dieu, qu'on soit méga foi ou petite foi, on en passe tout à travers des épreuves. Alors, mais il y a une façon qu'une personne de foi va réagir et une personne de mini-foi. Mini-foi, c'est comme, on oublie le bon Dieu, je ne veux plus rien savoir de lui. Ça, c'est mini-foi. Méga-foi, c'est comme, je ne comprends pas, mais je vais faire confiance en Dieu quand même. Amen. Est-ce que vous voulez aujourd'hui choisir de croire Dieu, peu importe la situation? Amen. Il y en a une couple. Super. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais inviter les musiciens à s'approcher maintenant. Donc aujourd'hui, c'était vraiment un temps où on peut penser à des choses éternelles et où on peut s'engager à recevoir aujourd'hui l'amour de Dieu pour ensuite savoir relâcher l'amour de Dieu. Et puis, peut-être on peut chanter « Dans tes bras d'amour ». Et j'aimerais ça qu'on se lève à notre place. On va prier ensemble aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on prie pour qu'on ne soit pas juste des personnes qui entendent la parole de Dieu, mais qu'on puisse aussi s'engager. À chaque fois qu'on vienne à l'Église, qu'on puisse prendre une décision, quitter cette place avec de quoi de plus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'engager devant Dieu à recevoir son amour pour être aussi en même temps un canal de son amour envers les gens. Peut-être que vous avez besoin de la consolation du Saint-Esprit dans votre cœur aujourd'hui, mais c'est ça qu'on va prier pour vous. Amen. Alors, prions ensemble. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour la présence de ton Saint-Esprit parmi nous. On veut te remercier, Seigneur, parce que même si on passe à travers des épreuves, Seigneur Dieu, tu nous donnes la joie. Tu nous donnes la paix, tu nous donnes ta grâce, Seigneur Dieu. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu nous donnes ta présence aussi. On n'est pas comme le monde, Seigneur, on est spécial. Tu nous entoures de tes bras d'amour. Et Seigneur Dieu, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est de s'engager devant toi, à t'aimer davantage. Et Seigneur Dieu, on veut s'engager également d'aimer les gens davantage. Qu'on puisse laisser ton amour couler à travers nous. Qu'on soit toujours des personnes animées par ton amour. Partout où qu'on passe, Seigneur Jésus, les gens sont contents d'être dans notre présence parce qu'ils ressentent l'amour de Dieu. Oui, on peut croire la victoire, Seigneur, mais on peut également marcher dans l'amour et que cette victoire soit manifestée par ton amour, Seigneur Dieu. On te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Et aujourd'hui, on s'engage à nouveau. Seigneur Dieu, on te donne nos vies, on s'engage à nouveau, Seigneur. Sers-toi de nous pour être des agents de ton amour, des agents de ta compassion, Seigneur. Comme toi, Seigneur Jésus, tu as pleuré quand Lazare est décédé, Seigneur. Qu'on soit là pour essuyer les larmes de ceux qui sont tristes, pour ceux qui sont dans des combats, ceux qui sont dans des luttes, ceux qui sont dans le désespoir, Seigneur. Qu'on puisse les aider à trouver l'espoir en toi. Merci, Seigneur, tu es un grand Dieu, tu es un bon Dieu. Et on veut même te remercier, Seigneur, pour la ville de Bromont, que ton esprit s'en vient ici d'une nouvelle façon. On te remercie, Seigneur, pour le réveil de ton Saint-Esprit que tu envoies ici à Bromont. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu as une place pour tes enfants à Bromont, Seigneur Dieu. On te remercie pour le vent de ton Saint-Esprit. On te remercie, Seigneur Dieu, que tu nous as montré comment on peut marcher dans la sainteté, pas sous un joug, mais dans la liberté. On peut marcher dans la sainteté et recevoir toute la provision de notre salut en toi. Merci, Seigneur Jésus. Tu es un bon Dieu. On te célèbre aujourd'hui. On te rend grâce pour ta bonté. On te remercie aussi, Seigneur, pour ceux qui nous permettent de se rencontrer ici dans le restaurant Transit. On veut prier, Seigneur, pour le locataire principal. Son nom, Tokyo. On prie pour lui, Seigneur Jésus. On prie pour lui que tu le visites par ton Saint-Esprit, qu'il puisse même se joindre aux réunions, Seigneur, que tu puisses le sauver, Seigneur. On prie, Seigneur, pour la mairesse de Bromont, Seigneur Dieu, la mairesse Quinlan, Seigneur. On prie, Seigneur, que tu fasses pareil avec elle, Seigneur, que tu la visites par ton Saint-Esprit. On prie, Seigneur, pour tous les conseillers de la ville de Bromont. Seigneur Dieu, on prie que tu visites cette place, que tu souffles par ton Saint-Esprit, Seigneur, dans la salle, Seigneur, là-bas à Bromont. La salle communautaire, Seigneur Dieu. On prie que ton esprit soit là et qu'on puisse ressentir un vent nouveau dans la ville de Bromont, Seigneur. Et chaque personne qui est membre de cette église, chaque personne qui s'est engagée à marcher avec nous dans la victoire, je prie, Seigneur, une fraîche onction, que ton onction puisse venir d'une façon fraîche sur eux, Seigneur, aujourd'hui, qu'ils puissent quitter cette place revêtus de ta présence et imbibés, Seigneur Dieu, de ta présence, Seigneur. Qu'on puisse marcher joyeux, Seigneur. Joyeux, Seigneur Dieu. à cause, on a contemplé ton visage. Merci Seigneur, tu es un grand Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.